Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Hellfest édition 2026 et nous sommes avec le groupe Skaphos. Bonjour.
Salut Xavier.
Salut.
Comment vous l'avez vécu votre Hellfest puisque vous avez ouvert sur la partie, on va dire, derrière la cathédrale à 16h. Il fait horriblement chaud. C'était comment pour vous ?
Bah écoute, déjà nous en fait c'est notre première fois au Hellfest tant comme musicien que comme festivalier. Donc on découvre à la fois un lieu un peu mythique, je pense qu'on a grandi tout notre collège en rêvant de venir ici. Puis même en tant qu'artiste, c'est un petit peu la consécration et on pensait pas qu'en ouverture de festival sous 36 degrés, on allait avoir une altar qui déborde de public de tous les côtés quoi. Et ça a été vraiment pour nous à la fois une expérience incroyable et à la fois très plaisant, très flatteur en fait, tant pour la réaction du public, l'interaction, tout était vraiment trop bien.
Ouais, après moi je rajouterais, j'ai fait le Fury Fest quand j'étais gamin avec mon père en 2004, voilà, donc ça a bien changé depuis. Et ouais, c'est la première fois que je fais le Hellfest en tant que, voilà, comme pareil que mon collègue. L'ambiance était exceptionnelle. Là, on vient, ça fait combien ? Il est 18h20. On a joué il y a 2 heures et j'ai du mal encore à redescendre. Donc, à chaud, voilà. J'ai jamais fait un concert aussi incroyable que celui-là pour l'instant. Pourtant, on en a fait pas mal des concerts.
Pour The Descent, en fait, vous avez revisité vos deux premiers albums en réenregistrant, en remixant complètement en fait le son. Comment est-ce que vous avez choisi les quatre titres de Batiscaf et les quatre titres de Tohoi pour que ça fasse un nouvel ensemble vraiment cohérent plutôt qu'une espèce de compilation ?
Ouais, en fait, on a sélectionné les morceaux qui nous paraissaient les plus matures de base, voilà. Et on a rajouté la patte qu'on avait déjà trouvée avec Cult of Usura, donc notre troisième album, à mettre encore plus d'ambiance tribale, plus de percussions, retravailler les riffs, retravailler les lignes mélodiques aussi, enfin les leads, et un gros travail de post-production pour arriver à quelque chose de cohérent et qui fasse une continuité, même si c'est des compositions qu'on a fait il y a très longtemps. Une continuité avec Cult of Usura. Voilà. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette cohérence entre les deux, entre le troisième album et du coup The Descent. Donc c'est pour ça qu'on a choisi spécifiquement ces morceaux-là et qu'on les a retravaillés.
Je voudrais ajouter que c'est en plus pour la plupart des morceaux qu'on jouait en live, en fait, qu'on a joué 200 fois en live et que du coup, pour nous, c'était une évidence de les retravailler parce qu'on avait, à force de live, déjà modifié ces morceaux. C'est-à-dire que les versions live n'étaient plus les versions studio. Donc on avait un peu cette frustration peut-être, puis aussi d'avoir fait à l'époque des, pour moi du coup, dans le groupe on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour moi c'est deux démos, et je voulais, et je pense que Stéphane aussi, on voulait lisser la qualité audio et ressortir ces titres qui nous plaisent énormément et qui nous ont fait évoluer en tant qu'artistes, à la fois pour nous et à la fois pour le public, leur donner un beau CD, un beau vinyle avec une belle production, un bel enregistrement, une belle qualité. À la fois en remerciement et à la fois parce que je pense que c'était aussi pour montrer que Skaphos avait évolué et mûri.
Comment est-ce que vous construisez en fait votre progression musicale puisque vous êtes toujours sur des univers assez abyssaux, on va dire. Est-ce que cette thématique-là en fait nourrit en quelque sorte votre façon de composer la musique ?
Alors je pense que pour chaque album, il y a toujours un moment où on se dit de quoi va parler le prochain album. Et cette discussion va influencer la composition. Dans le sens où pour Batiscaf, on avait cette idée de raconter une histoire dans un sous-marin. Et du coup, l'album est très black, très agressif, très rentre-dedans, claustrophobique, il s'arrête jamais, il y a du blast en permanence. Et pour Tohoi, en fait, justement, c'était la créature qui était réveillée par le crash du sous-marin, donc la divinité engloutie qui se réveillait. Et du coup, on se retrouve avec un album beaucoup plus expérimental, plus contemplatif, avec des passages un peu plus mélodiques, etc. Cult of Usura, du coup, est... On a imaginé du coup le point de vue de la tribu sur la plage qui contemple la mer et qui va la vénérer. Et du coup, on est parti sur quelque chose de plus tribal, plus pas peut-être moins rapide, mais en tout cas plus un peu plus péchu. Et pour les prochains albums qu'on a déjà commencé à composer, on a défini une histoire un petit peu en avance. On a limite pensé à l'artwork de l'album avant de commencer à composer. on fait une commande auprès de Paolo Girardi, qui est un peintre italien, et ça prend du temps, le temps qu'il soit dispo, puis le temps qu'il fasse la peinture à l'huile. Et du coup, en fait, on a cette vision en tête, on a une DA en tête, et cette direction artistique va nous aider, je pense inconsciemment, à composer quelque chose qui est pertinent.
Je voudrais parler des percussions, parce qu'il y a des éléments en fait qui ne sont pas des éléments classiques. Il y a aussi des histoires d'utiliser des coquillages, des choses comme ça. Comment vous avez travaillé ce son-là en fait, et qu'est-ce que ça apporte?
Je pense qu'en tant qu'artiste, on a la chance et la possibilité de faire des folies en studio et de crier dans des coquillages, de taper sur des trucs, j'en sais rien, de faire un cri et de le faire passer dans mille effets et voir le résultat qu'on a. Peut-être que le métal à l'ancienne est très traditionnel, guitare, basse, batterie, etc. Nous, on a cette volonté de proposer un concert-spectacle, on va dire, un peu plus, avec une immersion des ambiances. Donc si t'étais là, t'as vu que les morceaux s'arrêtent jamais brut, il y a toujours des samples, etc. On fait les transitions avec des percus, du djembé, des claves, des belles, etc. Et en fait, au tout début, c'était juste des samples et des ambiances. Et en fait, on a carrément intégré un percussionniste pour permettre cette énergie live que j'espère que t'as pu ressentir, ce côté rituel, en fait. Et on pense que ça rajoute un peu de personnalité au projet.
Ouais, pour rajouter à ce que Jérémy vient de dire, c'est surtout que la scène Black Death, elle est saturée depuis des années. Et en fait, c'était aussi une manière de se démarquer, nous, de ce point de vue-là, de rajouter des percussions, quelque chose que tu vois pas trop dans ce style. Donc, et on a vu que ça marchait très bien avec les riffs qu'on faisait de base sans percussion. Que ça rajoutait vraiment quelque chose en plus et que ça collait aussi à la DA qu'on avait mis en place. Donc, pour nous, ça a coulé de source de faire ça.
Au niveau du chant, il y a plein de registres différents. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours la même voix sur la façon de chanter. Comment c'est organisé cette façon-là? Est-ce qu'il y a un jeu de ping-pong entre la composition instrumentale et le chant? Est-ce que, enfin, en gros, vous le faites dans quel sens? Et comme la pochette était réfléchie avant, est-ce que des fois il y a des textes éventuellement même avant?
Le chant se passe en deux étapes, c'est-à-dire que il y a les parties death metal, donc du coup avec un chant death metal, hein, du growl que je fais, et sur les parties black ça va être plus voilà du grunt, du chant crié, etc. Mais il y a des tastures de voix qui changent en fonction de l'émotion que je veux donner, et le truc le plus important en tout cas dans Scaphos, c'est le flow, c'est-à-dire c'est pas forcément le texte le plus important, c'est le fait que ça soit très rythmique et que ça se complète avec ce côté tribal. Donc, voilà, c'est ça qu'on essaie d'apporter. Et souvent, justement pour aller dans le sens de ta question, dans la production, dans la composition, ce que je fais, c'est que j'écris tout. Je fais des top lines, un peu comme les rappeurs, c'est-à-dire que je vais faire du yaourt, me dire ah voilà, là ça sonne bien de cette manière-là. Et après, Jérémy écrit les textes par-dessus pour que ça colle à peu près à ce que je fais pour parler, pour faire un anglicisme, pour faire un flow, quoi. Voilà, donc ça se passe comme ça au niveau de la voix.
On adore regarder des making-of d'albums. Il y a des super documentaires sur Internet. Moi, mon préféré, c'est Colossus de Meshuggah, par exemple. Après, on peut regarder forcément Some Kind of Monster de Metallica. Je crois qu'il y a, quoi d'autre comme truc intéressant? Cannibal Corpse aussi, ou c'est le bassiste, c'est ça qui enregistre tout. Et en fait, ce qui matchait bien, c'est qu'en fait Stéphane, il a une putain de capacité à faire de la top line et à improviser des flows, des rythmes à la voix. On pensait être bloqué, mais en fait il y a Devin Townsend qui lui en fait fait exactement ça. Il fait du yaourt et après il écrit le texte qu'il a l'impression d'écouter. Donc, et il expliquait ça en studio et tout. Et en fait c'est super intéressant de regarder des making of d'albums, parce qu'en fait non seulement c'est du documentaire, mais non seulement en fait c'est, si les musiciens pensent qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à faire de la musique, en fait ça y est, sur YouTube il y a les making of d'albums, et c'est comme si on allait à l'école, on s'assoit sur un bureau et en fait c'est le moment d'apprendre comment les mecs bossent en fait. Et pour nous cette technique là fonctionne extrêmement bien.
Vos projets sur les semaines, les mois à venir?
Du coup, le seul live dont on peut parler pour l'instant, c'est le Motocultor. On joue le 14 août. Pour les autres dates à venir, pour l'instant, on n'a rien annoncé. Donc, par respect pour les prods, on va rester silencieux. tout ce qu'on peut dire, c'est que vu qu'on a fait une tournée en avril pour la sortie de The Descent, une tournée européenne où c'est la première fois qu'on était à de la 1 heure en Europe, il va y avoir un petit peu de temps avant la prochaine tournée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un album qui est déjà en cours de production et qui devrait sortir avant fin 2026. Ça s'explique parce que, en fait, notre signature chez Ludlow s'est faite parce que Gérald nous a soutenus dans l'envie de faire un remake, ce qui n'est pas banal. Oui. Et ce qui n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Et donc du coup, ce soutien dont on a eu de la part de Ladlo et de Gérald se solde évidemment par un vrai album qui, on peut rien dire parce que Ladlo l'annoncera, mais ça arrive. Et du coup, on va essayer à ce moment-là de faire une tournée Europe, France, etc. Et sinon de l'événement, du coup, forcément, on est sur du studio, comme tu t'en doutes. Et on a un projet qui a été lancé en 2024, c'est parti pour 5 minutes de monologue. En 2022, on a fait un court-métrage qui s'appelle La Litanie des Flots. On a utilisé les musiques de The Toy pour faire la bande-son. Et en 2024, du coup, comme on a kiffé le projet, que c'était le t-shirt qu'on a le plus vendu, on a eu des super retours, on s'est beaucoup amusé. En 2024, on a fait un crowdfunding, on a récupéré environ 7-8 000 euros, une centaine de donateurs, et on a pu produire, filmer notre premier long métrage qui va s'appeler Aurore Noire, pour lequel on va composer un album entier dédié à ce film là donc ça, c'est beaucoup de travail, on est dessus dans l'ombre, on communique pas assez dessus et on s'excuse auprès des donateurs qui attendent impatiemment, mais donc on a ça qui est en cours, le film est monté, on a 1 heure de film, ça nous oblige à faire presque, pas 1 heure de musique mais en tout cas au moins 40 minutes parce qu'il faut que ça soit aéré, etc. C'est beaucoup de travail, mais ça avance extrêmement bien. On est très content du résultat. Mais du coup, ça nous prend énormément de temps et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'aller-retour. C'est-à-dire qu'il faut travailler, faire une pause, revenir dessus, etc. Et donc ça avance. On a beaucoup de trucs prévus et on est très content. Mais pour l'instant, on est un peu silencieux.
Vous recevez des invitations pour pour 5 soirées différentes. Elles se passent toutes le même soir, donc vous devez choisir entre aller à la soirée anniversaire des 30 ans du premier film Scream, aux 40 ans de la sortie du jeu vidéo Zelda, aux 50 ans du roman Entretien avec un vampire, aux 40 ans de la série animée Dragon Ball ou aux 60 ans de la série Star Trek. Vous allez où ?
Je t'avoue que moi, Star Trek, je m'en fous. Dragon Ball, c'est cool, mais pas assez. Entretien avec un vampire. T'as dit le roman, c'est vrai que le roman est très bien et que le film est mal vieilli. J'hésite entre Zelda et Scream.
Ah, Zelda direct. Moi je prends Zelda direct, les autres ça m'intéresse pas.
Je pense que je vais dire Scream parce que j'ai cette passion pour l'audiovisuel. Je m'occupe de tous les clips de Scafos et je m'occupe de la production des films et tout ça. Et du coup, Scream est quand même un précurseur dans son genre et du coup... célébrer un peu ce culte, ce film culte, c'est quand même cool.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.